France Inter.
Mathieu Chédid est ce soir notre invité à l'occasion de la parution de son nouvel album et d'un concert qu'il donnera mardi prochain dans cette maison de la radio. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec Fatoumata Diawara et M7R. Vous écoutez chanter Mathieu Chédid me donne la sensation d'être dans un avion près du hublot, de regarder l'amoncellement des nuages et de voyager et d'essayer de comprendre combien de nuages sont dans ce ciel quand on est si haut, là-haut. Et je voulais savoir combien il y avait de niveaux à l'intérieur de cette chanson que nous venons d'écouter.
Après, c'est ça qui est bien, c'est que je les maîtrise pas tous, hein, heureusement. C'est difficile à dire. C'est vrai que j'aime bien jouer, lire entre les lignes, ça me plaît beaucoup, et mettre des choses codées un peu dans les chansons, c'est évident. Mais surtout, il y a des choses qui m'échappent, surtout avec ce projet malien qui a été vraiment initiatique pour moi, parce que c'est une autre culture et le monde de l'invisible est très présent en Afrique. Donc, je dirais que les plus belles dimensions, je les maîtrise pas du tout.
Où étiez-vous quand vous étiez enfant? Étiez-vous invisible à vous-même?
C'est vrai. C'est vrai que j'étais spectateur de la vie et souvent un peu en retrait comme ça. Et en même temps, plein dans mes rêves beaucoup. Et c'est vrai que j'avais cette sensation d'être souvent invisible, d'être le spectateur, de pas être acteur de ma vie.
Pourquoi avez-vous collectionné les hiboux très jeune?
En fait, c'est venu un peu plus tardivement. J'aimais bien les hiboux toujours, mais plus de façon ludique. Mais c'est le jour où j'ai pris conscience. C'est vrai qu'on m'a offert un hibou en fait quand j'étais enfant, qui était ce tableau de Bernard Buffet, sachant que ma grand-mère maternelle travaillait à la galerie Maurice Garnier, qui s'occupait de Bernard Buffet. Et effectivement, à ma naissance et à la naissance de ma sœur, on a eu ce hibou et puis un papillon de Bernard Buffet assez typique. Et c'est plutôt par la suite, quand j'ai commencé à faire ce personnage M, fantasque, je me suis rendu compte qu'il était totalement inspiré de ce hibou. Et c'est à partir de là que ça a été une sorte de, peut-être de gris-gris pour moi, de porte-bonheur. Et le hibou me suit depuis, et je collectionne les hiboux depuis.
Combien de fois vous êtes-vous métamorphosé?
Ça se calcule pas, ça.
De nombreuses fois.
Oui.
Vous aimez les masques de clowns?
Oui, j'adore. J'adore le cirque, j'adore les clowns, j'adore le jeu, quoi. C'est-à-dire que n'oublions pas que la musique, c'est jouer. Il faut jouer de la musique. Et j'ai gardé cette candeur-là, c'est-à-dire ce côté enthousiasme permanent. Je pense à ma grand-mère quand je dis enthousiaste, parce que elle avait vraiment ça, cet émerveillement. Et je crois qu'on a ça dans la famille Chédid, c'est-à-dire qu'on est dans l'émerveillement permanent et on est très excité, quoi. C'est-à-dire que là, ce nouveau disque, cette tournée, je la vis comme une première fois. C'est-à-dire que c'est pas du tout, il y a jamais d'acquis, il y a jamais de. Je suis plutôt dans une sorte de gratitude permanente et c'est vrai que le jeu, quoi, le masque M, c'est un masque et c'est ça qui et je veux jouer avec.
Quand vous étiez petit, Mathieu, vous étiez un peu rond, craquant d'ailleurs, mais on se moquait de vous parce que vous étiez un peu enrobé.
C'est vrai.
Et depuis, j'ai l'impression que vous ne cessez de vouloir être plusieurs corps. D'ailleurs, vous en avez peut-être plusieurs.
C'est vrai. Ben, c'est vrai que je me suis surtout connecté à mon corps. Là où quand j'étais jeune, c'était totalement séparé. La tête et le corps, c'était deux choses complètement parallèles. Et avec le temps, et grâce à mon ami d'ailleurs aussi, qui est présent aujourd'hui, ce soir, il m'a vraiment connecté aussi à mon corps, c'est-à-dire par le sport aussi, par un truc physique comme ça. D'ailleurs, c'est la philosophie, je crois que on l'apprenait dans des gymnases à l'époque. Enfin, je crois que le corps et l'esprit sont totalement liés. J'ai compris ça, mais assez tardivement. Et ça fait que le corps change, quoi. Et l'esprit s'apaise aussi en même temps.
Vous avez toujours su que vous étiez un garçon, Mathieu?
Oui, j'ai toujours su, parce que je me sens assez masculin. En fait, je me sens masculin, je me sens très proche des femmes, mais les femmes sont mes muses et je les vois avec un regard d'homme. Mais par contre, effectivement, j'ai une part très féminine que j'ai pas le mot, mais j'accepte totalement cette part féminine, mais c'est vrai que je pense être assez. Je crois que l'homme arrive un peu dans ma vie, quoi. Je deviens plus homme qu'avant.
En tout cas, votre part féminine a été magnifiée, et ce depuis votre plus haute enfance, par votre grand-mère, dont vous venez de parler, André Chédid, qui était écrivaine et surtout poète. Une très très grande poète, je vous propose de l'écouter. C'est une archive INA du 5 janvier 1985. Elle va s'exprimer sur la signification des mots et sur la manière, vous allez voir comment c'est intéressant par rapport à ce que vous êtes devenu, Mathieu, à cette manière qu'ont les mots de prendre corps.
Je ne suis pas très bonne en parole. Je ne parle pas avec facilité et je m'embrouille dans les mots. Enfin, c'est pas mon truc. J'ai du mal à parler, à commenter. Et dans l'écriture, même, c'est ensuite que le travail vient, la justesse du mot, la recherche du mot, si vous voulez. Mais au début, c'est vraiment, c'est l'écrit, c'est le côté physique de l'écriture. Et je crois que les choses ne prennent corps que quand elles se déversent sur la page. Puis ensuite, ça peut être un choix de mots très lent. Pour un roman, par exemple. Je ne crois pas que ce soit un travail intellectuel, c'est un travail d'image plutôt. J'ai une image comme ça qui s'impose. Par exemple, le sixième jour, je voyais cette vieille femme entraînant un enfant dans un état dramatique. Et je vois en général deux personnages qui sont... C'est en général deux personnages dans une image assez intense et avec un rapport de plus en plus fort entre eux. Et j'attends que l'image s'impose. Et quand l'image s'est imposée, à ce moment-là, je me mets à écrire. Mais c'est pas tellement le... Si vous voulez, l'abstraction du mot. Il faut que les choses prennent corps, ou bien sur la feuille, ou bien par une image.
Votre grand-mère, Mathieu, était une grande écrivaine. Elle incarnait au plus haut la langue française, la manière de transformer la langue française. Elle était d'origine égyptienne. Elle avait une grande classe, une grande douceur, une grande créativité. Elle s'exprimait dans plusieurs disciplines, aussi bien le roman très structuré que des poèmes qui pouvaient célébrer la sensualité et la beauté du monde. Et je crois que dans son œuvre, il y a une part d'abandon. Et je me dis que vous êtes bien le petit-fils d'André. Je pense que dans la métamorphose, les métamorphoses que vous accomplissez de vous-même, il y a de plus en plus d'abandon.
Ouais, je dois être un enfant multiple, comme elle dirait. Mais c'est certain que c'est... elle est très présente quoi, dans ma vie. Et c'est toujours émouvant de l'entendre. Mais je la ressens toujours proche de moi. Et comme, effectivement, comme un héritage assez... et que je ne prends pas avec lourdeur, que je prends avec... avec abandon justement et acceptation de me dire d'avoir la chance comme ça d'avoir une lignée comme ça de famille. C'est vrai que j'ai un père exceptionnel, des frères et sœurs, ma fille, peu importe, hein, mais c'est une famille d'artistes. Et ma grand-mère effectivement résonne tous les jours en moi parce que c'est elle m'a guidé, elle me guide, elle m'inspire aussi beaucoup. C'est une muse pour moi indispensable.
Vos chansons, Mathieu, depuis longtemps maintenant, parlent de l'existence, du goût ou pas de l'existence, de la difficulté à trouver soi-même sa propre harmonie et à être en coïncidence avec soi. Je crois que à l'intérieur de vos chansons, évidemment dans le dernier album, mais pas seulement, il y a beaucoup de quêtes philosophiques. Je vous propose d'écouter la voix d'Edgar Morin. Il va nous parler de la transe. C'était un entretien avec lui, il y a un peu moins d'un mois et demi. Écoutez-le.
C'est quelque chose dont j'ai pris plus tard la conscience de l'importance. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai vu que la vie était polarisée entre d'un côté les états prosaïques et de l'autre côté les états poétiques. Les états prosaïques, c'est les états... qui nous ennuie, que l'on fait sans aucune passion, par contrainte souvent, par obligation. Et les états poétiques, c'est ceux où nous dilatons, nous communions, c'est l'amour, c'est la fête, c'est l'amitié, ça peut être un match de football, c'est ce que nous donnent les belles œuvres d'art, la musique, la littérature. Et donc, si vous voulez, je pense que on ne se préoccupe pas, notamment quand on parle en sociologie ou en politique, de l'importance de ces états qui correspondent à ce qui, pour nous, est la vraie vie. Les autres états, c'est survivre. Le vrai problème, c'est de vivre, et vivre pleinement, c'est s'épanouir soi-même, mais toujours au sein d'une communauté et d'une communion. Et dans le fond, c'est ça que j'ai toujours recherché et que j'ai souvent goûté.
Vous êtes ami d'Edgar Morin. Que vous apporte-t-il ce grand scientifique qui est aussi épris de liberté, d'accomplissement de soi et qui pense que le corps est aussi important que l'esprit, et que savoir chanter, savoir danser, eh bien, c'est aussi important que de savoir comprendre un livre de philosophie.
Oui, c'est ça. Il m'a fait comprendre cette idée de vivre poétiquement, et que c'est pas forcément lire des poésies que de vivre poétiquement. Il l'a expliqué extrêmement bien. C'est d'être apte au bonheur aussi, à ces petits instants. Et pas forcément des choses incroyables, mais à vivre, à célébrer l'instant, tous ces petits moments de grâce qui sont devant nous toute la journée. Et effectivement, quand t'es musicien, c'est un cadeau, puisque cette communion dont il parle, c'est comme une seule personne, quoi, communion. C'est de vivre ces moments d'unité, comme ça, qui rassemblent. Et c'est vrai que c'est un engagement poétique, plus que politique, mais qui est vital.
À quel moment on parvient justement à ce sentiment de communion ?
Ben, sur scène, c'est flagrant, puisque quand on se retrouve dans une salle, le temps s'arrête. J'ai développé, malgré moi, j'ai envie de dire, cet échange fusionnel avec le public, mais et qui est justement pas dans un sens de hiérarchie. D'ailleurs, je me sens pas plus important que les gens qui sont dans la salle, mais on fusionne ensemble, on ne fait qu'une seule chose, et c'est un dialogue, c'est le dialogue des anges, quoi. Il y a quelque chose de sacré là-dedans, en tout cas. Pas du tout de religieux, mais de sacré, quoi, de puissant.
Qu'est-ce qui se passe alors? C'est magnétique, c'est surréaliste,
oui. C'est vibratoire, hein, déjà. C'est une vibration, c'est à l'image d'ailleurs de mon disque Lettre infinie. C'est une lettre infinie, on la voit d'ailleurs, qui résonne, qui s'amplifie comme ça sur la pochette. C'est une vibration qui s'intensifie, qui crée des moments de, voilà, suspendus, des moments où on est vraiment ancré dans le présent. La musique aide beaucoup à ça. Et c'est des moments de bonheur, tout simplement.
Votre musique, Mathieu, a beaucoup à voir avec l'envol. Est-ce que, avec cette sensation qu'on peut tous éprouver, est-ce que c'est délibéré de votre part à l'intérieur de la construction de vos morceaux ?
Y a une envie de lumière, quoi, d'aller. C'est pour ça, souvent, on parle des jeux de mots, parce que c'est vrai que j'ai cette fragilité-là, c'est d'aller très vite jouer avec les mots. Mais j'appelle ça la langue des oiseaux, c'est ce qu'on disait, les alchimistes appelaient ça comme ça à l'époque. C'est cette langue qui est entre ciel et terre, quoi, comme ça, où on peut justement raconter d'autres choses à travers les mêmes mots. C'est un jeu, encore une fois, c'est des codes un peu. Et c'est vrai que, oui, j'aime ce qui tire vers le haut, c'est vrai. Et en même temps, j'apprends à me connecter à la terre aussi, pour que tout ça fonctionne bien.
Il y a différents types de langage dans la chanson française. Vous utilisez plusieurs niveaux de langage. Poétique, répétitif, transcendant, métaphysique, et puis beaucoup l'écolalie, répéter à l'infini, parce que ça provoque quelque chose qui nous fait vibrer.
Oui, un petit mantra de temps en temps, ça fait pas de mal. Oui, c'est ça, la répétition a beaucoup de vertus, c'est comme d'ailleurs la transe, hein. C'est une transe, puisque c'est la répétition permet de rentrer dans une méditation parfois.
Je vous propose d'écouter Gilles Deleuze. Mmh. Gilles Deleuze qui, dans son abécédaire, a mis ritournelle. Écoutez ce qu'il dit de la musique.
Mmh. Mettons, la ritournelle, c'est un petit air. Tralala, lala, tralala. Quand est-ce que je dis tralala? Je fais de la philosophie. Je me dis quand est-ce que je fais que je chantonne. Je dis je chantonne en trois occasions. Je chantonne quand je fais le tour de mon territoire et que j'essuie mes meubles. Il y a un fond radio. Bon. C'est-à-dire quand je suis chez moi. Je chantonne quand je ne suis pas chez moi et que j'essaie de regagner le chez moi, quand la nuit tombe, l'heure de l'angoisse. Je cherche mon chemin et je me donne du courage en chantant tralala. Je vais vers mon chez moi. Et puis, je chantonne lorsque je dis adieu, je pars, et dans mon cœur j'emporterai. Ça aussi, tout ça, c'est la chanson populaire. Adieu, je pars, et dans mon cœur j'emporterai. Alors, lorsque je sors de chez moi pour aller ailleurs, mais pour aller où? En d'autres termes, la ritournelle, pour moi, est absolument liée à... Ça nous remet à A, animal, au problème de territoire et de sortie ou d'entrée dans le territoire, c'est-à-dire au problème de déterritorialisation.
C'est magnifique. D'ailleurs, il disait aussi, je crois que dans ce R aussi, que la ritournelle, c'était toutes les grandes œuvres partent de trois notes. Hein, c'est souvent, et ça revient toujours de à l'idée de la source de l'enfant, c'est toujours la simplicité qui fait les grandes choses. Hein. Faut pas partir complexe, faut partir simple et après on peut développer. Et ça m'inspire aussi cette lettre A d'ailleurs de Gilles Deleuze quand il, ça m'a marqué beaucoup parce que il parlait de l'animal et l'animal se marque son territoire par trois choses, la couleur, la posture et le chant. Et ça m'avait vachement inspiré à l'époque de Mister Mystère et d'ailleurs aujourd'hui encore, c'est-à-dire de parce que j'ai vraiment cette sensation par le chant, bon, ben, ça c'est ma voix, la posture, j'ai vraiment ce corps, ce langage du corps et la couleur, c'est-à-dire chaque période de M, entre guillemets, je marque par une couleur ou quelque chose de très marquant comme ça, donc c'est des gens comme ça m'inspirent énormément.
Ben, vous suivez les voies de Rimbaud.
Oui,
c'est-à-dire... Les couleurs, oui, les matières, les voyelles.
En tout cas, c'est des gens qui m'inspirent beaucoup, oui, ça c'est sûr.
À partir de quand vous avez compris que oui, malgré les difficultés du début de votre existence dans la chanson, Mathieu, chez Did, ça a été dur au début.
Ouais,
vachement dur.
En fait, bizarrement, jamais, je ne l'ai pas vécu comme ça parce que je n'étais pas dans une attente particulière. C'est vrai que j'ai cette chance d'être musicien. J'adore accompagner les artistes aussi. Et quand j'ai fait mon délire M, sincèrement, j'aurais pas imaginé que 20 ans plus tard, on parlerait encore de ça à la radio.
Pourquoi vous dites délire?
Parce que je l'ai vécu avec quand même une fantaisie. Quand j'ai commencé ça, il y avait cette envie d'abandon. Il y avait quand même un lâcher prise. Et d'aller chercher son clown. D'aller chercher sa fantaisie et pas forcément d'être dans une attente de succès, de carrière du tout. Plus dans une expression.
Mais vous n'étiez pas dans la lignée justement de David Bowie et d'autres chanteurs tutélaires qui faisaient des apparitions, qui étaient beaucoup plus vieux que vous, mais qui faisaient des apparitions d'autres personnes qu'eux-mêmes quand ils étaient sur scène.
Ah oui, complètement. Non, l'idée du personnage, et je pense à Prince, qui était un peu plus âgé que moi, mais ma génération aussi, c'est vrai que c'est ou Björk d'ailleurs, mais c'est ces artistes-là qui m'ont le plus inspiré, ça c'est certain. Non, il y avait une vraie passion dans ce que je faisais, mais avec un peu ce côté faire sérieusement les choses et sans se prendre au sérieux était important pour moi. Et j'avais pas vraiment le...
N'empêche que les premiers directeurs de disques, ils ont foutu à la poubelle vos...
C'est vrai.
Les premiers.
C'est vrai que c'était pas gagné du tout. Même mon père d'ailleurs était assez catastrophé quand il m'a vu avec mon look et tout ça. Mais en même temps, c'est le premier qui me dit aujourd'hui qu'il avait tort à ce niveau-là, parce que c'était justement une expression sincère. Parce que ces choses-là passent pas. En fait, il y a un truc aussi en France, c'est que on est aussi très, on respecte beaucoup l'intellectualisation des choses. Et c'est vrai que moi, je m'aperçois que je parle beaucoup avec le cœur plus que la tête, et de plus en plus. Ce qui fait que, on prend pas très au sérieux un clown en général. On se dit, on peut pas faire des belles chansons si on a un look aussi,
Ben on a tort. Ce sont toujours les clowns qui sont les plus profonds et les plus sérieux.
Je suis d'accord.
D'ailleurs, je crois que vous continuez à vous occuper d'une association de clowns. Vous pouvez en parler, Mathieu Chédid?
Oui, ça fait plus de 20 ans que je soutiens les Clowns sans frontières. Une association magique, puisqu'ils vont dans les camps de réfugiés dans le monde entier depuis donc plus de 20 ans pour offrir du rire aux enfants surtout, mais à tout le monde. Et donc c'est un collectif de circassiens. Sincèrement, c'est les plus beaux. D'ailleurs, c'est des grands artistes du cirque, à travers tous les arts du cirque, qui vont effectivement dans les camps de réfugiés offrir des moments d'oubli, des moments de sourire. Ils offrent comme ça des nez rouges à tous les enfants des camps de réfugiés. Et voilà, c'est je pense qu'on peut guérir aussi par ces moments-là aussi.
Et vous pensez que vous avez été le clown de vous-même à un moment donné?
En tout cas, j'aime le ridicule. Je dirais que le rock'n'roll et le ridicule vont bien ensemble. J'adore les Rolling Stones, par exemple. Et je pense que
c'est pas très sympa pour les Rolling Stones.
Non, parce que je dis ça avec franchement beaucoup de tendresse et d'amour pour eux, hein, parce que je suis complètement admirateur de ça, de cette attitude, cette posture dont on parle. Mais en même temps,
vous voyez comme les Rolling Stones en train de continuer les concerts à presque 80 ballets.
En même temps, quand je vois
dans quelques décennies,
souvent je pense à Dick Rivers dans ces cas-là, parce que c'est vrai qu'il a gardé son look comme ça figé. Je crois que ce qui est important, c'est d'être en accord avec ce qu'on est, quoi.
Peu importe l'âge.
L'âge, pour moi, l'âge a très peu d'importance quand je vois ma mère, ma grand-mère, enfin les gens qui m'ont, où je pense à Agnès Varda avec qui je passe du temps, je la trouve sincèrement beaucoup plus jeune que moi.
Je vous propose d'écouter une musique. Vous savez qu'à Radio France, Mathieu Chédid, nous avions une collection magnifique de musique traditionnelle. Elle s'appelle Locora. Elle a permis pendant très très longtemps à des ingénieurs du son de parcourir le monde et de pouvoir capter avec des moyens techniques appropriés la culture la plus profonde de ces civilisations. Je vous propose d'écouter la musique des pygmées Aka, rituel précédant le départ de la chasse. La musique, c'est du sérieux. La musique organise les principaux rites de la société. La musique sert de soudure entre les êtres humains. On l'entend avec ce magnifique enregistrement de l'Okora des Pygmées Aka. Je voulais savoir ce que vous inspirez cette musique, Mathieu Chédid, parce que vous êtes le grand maestro de l'art du déplacement et vous avez une vision extrêmement métisse de la musique.
C'est vrai que à travers mes amis maliens, Toumani Diabaté entre autres, c'est un griot. Hein. C'est vrai que j'ai compris que c'était un langage, la musique sociale aussi, et que ça permettait de dire des choses, et surtout de parler de transmission beaucoup. Mais quand j'entends ça, oui, moi ce que ça m'inspire, c'est le groove déjà. Ça vient de la terre, on sent vraiment que c'est le son de la terre. C'est un son qui est complètement connecté à la nature. Là où nous, quand on parle par exemple de musique urbaine, c'est assez étonnant, d'ailleurs, sachant que la musique urbaine prend tout le marché de la musique aujourd'hui, peu importe le marché, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est une musique béton, quoi. C'est une musique qui est déconnectée de la nature, même si elle peut être admirablement inspirée parfois, moi j'aime beaucoup parfois. Mais voilà, là ça nous ramène à la source, à la racine de l'être. Et après à la transe, on parle de répétition beaucoup, hein. Là on est vraiment dans quelque chose de spirituel, quoi. Donc c'est on devrait écouter ça tous les jours, oui.
Vous cherchez le déséquilibre quand vous allez justement au Mali pour écouter des chansons, pour observer des chanteurs et pour ensuite en faire un album magnifique. Vous avez besoin de cette nourriture extra-occidentale pour nourrir votre imaginaire.
Oui, mais en même temps, je le vis pas comme un... Ça me déséquilibre sûrement un peu, mais ça m'ancre quelque part justement un peu plus et j'ai l'impression de retourner aux racines de moi-même aussi et de revenir à la source parce que c'est... On a sûrement de l'Afrique en nous tous, je sais pas, hein. Mais pour moi c'est très parlant. C'est-à-dire que quand je suis là-bas, je me sens. Alors j'ai pas vécu sur des très très longues périodes, mais à chaque fois que j'y vais, c'est plutôt un apaisement pour moi.
Musicien du monde.
Bah oui, en tout cas ouvert au monde. Hein. C'est-à-dire que c'est tellement excitant justement de. Il y a tellement de choses, il y a de nourriture quoi. Et c'est vrai que de varier la nourriture, d'aller voir un peu partout, que ce soit en Inde, en Afrique. En France, évidemment, mais même dans toute chaque région de France, ça a aussi des saveurs incroyables. Non, c'est vrai que je suis un amoureux de tout ça, oui.
Dans votre musique, Mathieu Chédid, il n'y a pas seulement de la musique, il y a aussi beaucoup de sons. Vous accordez beaucoup d'importance à l'atmosphère sonore et à tout ce qui peut se passer à l'intérieur d'un orchestre de musiciens. Ça fait du bruit et ces bruits sont ceux de la vie. Qu'est-ce qu'un son et qu'est-ce qu'est la musique par rapport à un son?
Oui. Bah, je dirais que la musique est partout. On pourrait faire de la musique avec n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire que cette table est un instrument de musique. Et tout est musique si on l'écoute d'une certaine manière. D'ailleurs, chaque son est une note. Donc, on pourrait partir assez loin dans ce concept. Mais après, je suis un amoureux des sons. D'ailleurs, mon studio s'appelle le Labo M. Et parce que je me sens plus expérimentateur que le studio, qui est un lieu studieux d'études. Moi, je me sens plus lié à l'expérimentation du labo, du laboratoire. Et par rapport à ça, c'est vrai que j'aime triturer les sons, quoi, parce que c'est une matière. J'aurais peut-être pu être même cuisinier, peut-être, parce que j'aime ces saveurs, cette idée de mixer des choses improbables aussi, souvent. J'aime bien prendre des extrêmes et de les ramener ensemble et d'essayer de trouver un équilibre avec les extrêmes.
Alors, vous êtes venu avec une guitare, vous en avez combien ?
Ça, c'est assez inavouable.
Trop tard.
La guitare est un peu c'est une obsession. C'est vrai que c'est un monde féminin, la guitare, pour moi. C'est très féminin aussi. C'est des inspiratrices. Chaque guitare a une histoire. Chaque guitare a un corps différent, a une texture.
Un corps ?
Ben, c'est très féminin, le corps d'une guitare. Hein. Et non, c'est vrai que je dois. J'ai peut-être une cinquantaine de guitares, ouais.
Alors, celle-là, elle est pas mal. Elle s'appelle comment ? Vous leur donnez des noms ?
Celle-là s'appelle Martine, mais c'est vraiment son, c'est vraiment son nom. C'est une Martine, c'est un nom américain. Et c'est une guitare que j'ai trouvée à New York, qui doit être. J'aime beaucoup les guitares aussi des années 60, 50, 70. Elle doit être des années 60. C'est une petite guitare de voyage aussi, qui a vécu pas mal.
Vous êtes capable d'aller au bout du monde pour vous acheter une guitare ?
C'est plutôt que je fais des voyages à travers mes tournées. Et j'aime toujours ramener un petit gris-gris, alors parfois une percussion, une guitare, quelque chose. C'est des souvenirs musicaux.
Guitariste d'abord ?
Avant tout, évidemment. Déjà, musicien avant tout. Hein. C'est-à-dire que le chant est venu tardivement, peut-être par les mots et l'idée du jeu, comme ça encore. Mais je me sens. Oui, je suis vraiment guitariste avant tout.
Multi-instrumentiste aussi ?
Bah, je m'amuse, mais de façon un peu décomplexée. C'est-à-dire que Oui, là, surtout sur cette nouvelle tournée, je vais un peu expérimenter ça, puisque je vais passer d'un instrument à un autre, il va se passer des choses marrantes.
Quand on sait jouer d'un instrument, et vous avez été d'abord guitariste pendant pas mal de temps, Mathieu Chédid, est-ce qu'après, c'est plus facile de jouer les autres ?
Oui.
Et des autres ?
Ça, c'est très personnel, hein. Chacun a une appréhension. Moi, c'est vrai que j'ai ce truc de décomplexer, et je suis très autodidacte, hein, comme toute la famille d'ailleurs. Donc c'est simplement que on triture les trucs. Au départ c'est assez primaire, et puis au final c'est comme tout, quand on joue plus sur plein d'années, on finit par s'améliorer un peu.
Ben alors, écoutons votre amélioration, mon cher Mathieu.
Je me mets à côté là.
Ok, merci. Alors vous allez interpréter, j'imagine, un des titres de cet album qui sort en ce moment, et j'ai cru comprendre. Par la mini répétition, il est 20h38, on est dans un petit studio à France Inter qui n'est pas véritablement équipé pour ça. Donc vraiment, merci Mathieu, vous avez été super sympa.
C'est un plaisir. Ah, je suis dans l'espace là, c'est bien. Non, effectivement c'est une chanson que j'ai fait avec Thomas Bangalter justement, qui est plutôt disco, mais que j'ai envie de faire de façon très acoustique pour vous.
Non mais il y a un côté disco hein, dans le nouvel album, mais
ah oui,
on vous écoute.
Mais là c'est la version acoustique.
M'amuse, m'aimante, m'amuse et me hante. Elle est toujours elle-même, c'est bien pour ça que je l'aime. Tellement addict que je suis accro. Accroché à ses ailes, je suis pas beau. Ma super chérie, super chérie, super. Super chérie, 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 ma super chérie. Femme fatale, bien installée sur ton piédestal. Même si parfois tu mimes mes nuits, tout nous oppose, pourtant on s'attire. Tu es toxique, mon héroïne. Moi je suis le con dans la nuit noire qui fond comme un ice cream. De toi j'ai toujours envie. Toi j'ai toujours envie, de toi j'ai toujours envie, de toi j'ai toujours envie. Oh oui. Super chérie. Oh.
pas mal. Merci beaucoup, Mathieu. Je suis toute seule dans le studio, alors je vous applaudis. Ça va être un peu. Mais ça me fait trop rire de vous voir chanter parce que, bah oui, parce que vous avez l'air d'un petit bébé quand vous chantez. Vous fermez les yeux, vous avez l'air tellement content. Vous avez un sourire, l'innocence de l'enfant. Et puis quand même, depuis que vous êtes apparu dans la chanson française avec ce Mister M qui a débarqué sur les scènes de théâtre, eh bien, il y a quand même toujours chez vous, et notamment encore dans cette chanson, une auto-dérision. Oui. Une auto-dérision permanente. Oh, oh.
Heureusement, oui, oui. Non, se prendre au sérieux, c'est quand même assez pathétique pour moi.
Bah oui, alors, super chérie et super chérie, il manque un accent, quoi. Il y a que.
C'est ça que. Voilà.
Il y a que l'intervalle d'un accent.
Bah c'est ça. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte que c'est si proche, parfois, certaines choses. Et puis, c'est très ludique et c'est joué effectivement avec ce petit accent et.
Bah, c'est... Oh, oh. C'est comme s'il y avait plusieurs voix à l'intérieur de vous.
Ben là, c'est la femme qui ressort d'un coup, effectivement. Ouais.
Alors, parlons de votre voix.
Ben non, mais ma voix, c'est...
Vous pouvez toujours... faire la femme, vous pouvez faire...
Ben, c'est toujours le cas, d'ailleurs, quand j'appelle un taxi, parfois au téléphone, on dit madame, toujours encore. J'ai une voix de femme mûre, par contre.
Plus que de fille. Mûre.
C'est ce qu'on m'a dit, en tout cas. Bon. Non, mais en tout cas, oui, non, mais... C'est pas ma voix, c'est par défaut quelque part ma marque aussi, mais c'est pas volontaire quoi.
Bah c'est devenu une qualité, hein.
C'est ça. Non, je le prends bien maintenant.
Vous êtes le petit-fils de Brigitte Fontaine.
Aussi. Ah oui, c'est sûr que Brigitte Fontaine, c'est aussi une femme qui m'inspire et puis qui a une liberté. En fait, c'est ça qui me fascine d'ailleurs quand je pense, même si ça n'a rien à voir, hein, mais à Brigitte Fontaine, à Agnès Varda ou à d'autres femmes aussi incroyables, c'est leur liberté qu'on perd évidemment aujourd'hui. On se lisse un peu, on se police beaucoup et on apprend beaucoup de ces femmes-là qui sont totalement libres d'expression et qui ont une... Enfin voilà, comme cette émission ce soir-là, c'est quel bonheur quoi d'être... d'aller chercher, d'aller gratter un peu, d'aller profondément dans les coulisses de soi-même, quoi, ça fait du bien.
Vous êtes un fils d'eux. Et d'ailleurs, vous ne le cachez pas, votre père est chanteur et vous interprétez vos chansons avec vos sœurs et maintenant avec votre fille qui débarque dans le dernier album. Vous avez beaucoup joué avec des enfants d'eux et notamment avec notre ami Arthur, Arthur ouais. H. Eh bien, écoutez ce qu'il dit de vous et faites attention, Mathieu, il va vous poser deux questions très difficiles.
D'accord.
Mathieu, c'est quelqu'un qui m'inspire. Je fais partie des rares personnes dans la chanson française, s'il y a une telle chose qui existe, qui m'inspire en France. Alors, je l'ai vu tout petit, qui faisait ma première partie avec ses pots de fleurs qui bougeaient tout seul. Et une espèce comme ça de force, d'innocence et de force. Et l'innocence et la force, c'est peut-être la grâce aussi, une forme de grâce. Magnifique. Et aussi une fusée, quoi. C'est que le mec, il a très vite allumé la mèche et la fusée a décollé et parti droit très très loin dans l'espace. Et c'était très beau à voir, très joyeux, voilà. Et aussi, une des raisons pour lesquelles Mathieu, il m'inspire, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui, naturellement, pense grand. Il pense grand, il pense large, mais c'est pas un effort ou c'est pas une volonté de sa part, c'est qu'il a cette pensée qui est très ouverte et très large. Et c'est ça qui l'amène à Bercy, finalement. Je pense pas qu'il se réveille le matin en se rasant et il pense à Bercy. Mais c'est juste le fait de penser naturellement grand l'a amené naturellement à Bercy. Voilà. Et à donner à quelque chose, donner quelque chose de très fluide aux gens. Voilà, c'est très beau, ça, vraiment. Il a ça en lui, et c'est rare et beau. C'est comme s'il venait d'une dimension où les choses sont fluides, sont douces, sont naturelles, et qu'il partageait avec nous cette dimension-là, nous qui vivons dans une dimension où les choses sont pas toujours fluides. Voilà. Alors ma question, mon cher Mathieu, c'est dans cet océan de fluidité, qu'est-ce qui te fait peur encore? Et quel rêve, est-ce que tu as un rêve que tu n'as pas osé vivre encore, qui t'attire, mais que tu n'as pas encore réalisé? J'imagine que tu as réalisé beaucoup de tes rêves, quel est le rêve que tu n'as pas encore réalisé et qui peut-être te fait peur?
C'est beau. En tout cas, ça me touche profondément. C'est une question en deux ou c'est deux questions?
Deux questions.
Qu'est-ce qui me fait peur aujourd'hui déjà? Non, c'est-à-dire qu'effectivement, l'incompréhension qui amène à une certaine violence, une colère comme ça, je suis un peu désarmé face à la violence. C'est-à-dire que je ne suis pas fait pour la violence. Donc ça, c'est quelque chose qui... Est-ce que ça me fait peur? Oui, peut-être d'une certaine manière, je suis un peu désarmé face à ça. Et sinon, sinon le rêve qui pourrait peut-être celui qui me vient comme ça, c'est de me retrouver avec Paul McCartney sur scène.
C'est possible.
Ça serait peut-être possible. Ça a failli se faire d'ailleurs une fois, mais on a eu la chance de vivre un moment incroyable il y a 10 ans ensemble, en tête à tête à l'époque. C'était incroyable, mais voilà. Voilà un rêve que j'ai pas réalisé encore, mais en tout cas, c'est vrai que je pense à Arthur et c'est quelqu'un qui m'inspire tellement aussi, donc je suis très touché.
Alors Mathieu, vous êtes aussi un citoyen, vous n'êtes pas un engagé politique, et il est impossible de trouver aucun message politique à l'intérieur de vos chansons. Ça ne veut pas dire que vous ne soyez pas engagé comme citoyen. Je voudrais que les auditeurs écoutent, au cas où ils ne l'auraient pas encore écouté, cette composition musicale que vous avez faite en famille, c'était après Charlie Hebdo.
Au rythme de la vie, je marche ma douleur et je marche Charlie. Je ris et je pleure, c'est l'âme pleine de silence pour libérer nos cœurs, pour apaiser ma France dans mes bras, grande sœur. Arroser nos âmes, nous avons vu pousser dans le cœur de Paname des fleurs d'éternité pour célébrer toujours l'humour en liberté. On a senti l'amour dans l'air, le vent siffler. Je suis tueuse, vilaine, nous sommes à l'unisson comme un seul homme dans mes pensées, comme un cri dans la ville à bout portant. Dans nos cœurs fragiles, crayon à la main, tes idées qui résonnent, tes mille et un dessins n'ont jamais tué personne. Pour vous les oiseaux rares, et pour vos grandes plumes, et pour l'humour de l'art, dans vos rires posthumes. Je suis tueur, il est nous sommes à l'unisson, comme un seul homme dans mes pensées, dans mon lit, dans mon ciel, ta liberté étincelle. Dessine-moi une guitare, mets-lui de grandes ailes, caricature pour moi, solo immortel. De mon cœur, je marche dans ma vie, et Paris marche et pleure entre soleil et pluie. Ses yeux pleins de silence, on les connaît par cœur. La vie est une danse, une valse, grande sœur. Je suis tueur, il est nous sommes à l'unisson, comme un seul homme dans mes pensées, comme un cri dans la ville à bout portant. Dans nos cœurs fragiles, alors je suis ce vent de liberté. L'étendard Charlie s'est levé.
Je crois que la notion de cœur à l'intérieur de votre travail d'artiste, Mathieu Chédid, est très importante. Cœur, il y en a beaucoup des cœurs, y compris dans le dernier album qui sort ces jours-ci, L'être infini. Cœur de la famille, cœur des musiciens, cœur C-U-E-R aussi. Et cette chanson que nous venons d'écouter, elle est chorale et elle est collective. Dans quelles circonstances l'avez-vous créée?
Ouais, dans un, bah justement, dans un moment désarmé comme ça, où on sait pas comment réagir face à tout ça. Et la musique, encore une fois, est une réponse. Parce que c'est, y a un entrain, c'est comme si on redémarrait la machine. Et j'ai un besoin de mettre des mots là-dessus. Là, ça, c'est comme un besoin vital, donc quelque chose de primaire, quelque part, même d'animal un peu. Et puis collectif, est-ce que c'est un moment où j'étais avec la famille quand j'ai fait cette chanson? Donc on l'a faite effectivement pendant la tournée familiale. Et une prise de conscience aussi, c'est des moments de prise de conscience où justement on se dit, mais c'est vrai qu'on a une liberté d'expression incroyable et on s'en est peut-être pas rendu compte. Donc c'est toutes ces prises de conscience-là.
Vous avez l'habitude, depuis que vous avez commencé à exister en tant que chanteur, Mathieu Chédid, de faire dans le collectif et puis d'apparaître, puis de disparaître, puis de revenir, tel le magicien que vous incarnez depuis maintenant pas mal de temps. Il y a eu des albums collectifs. Vous avez même désiré ne pas voir votre nom, ni même votre prénom, dans un album La Momalie. Et puis là, vous revenez, c'est vous qui signez. Alors j'ai un peu peur pour vous, parce que j'ai devant moi la tournée M, l'intre infini. Je vois les dates et je vois que toutes les premières dates, en face, c'est marqué en rouge complet. Est-ce que vous n'allez pas être abîmé par ce succès?
Je le vis plus comme une gratitude que comme une... Je me sens pas grisé par tout ça, mais plus j'ai envie d'être à la hauteur, donc ça, c'est beaucoup de travail. Là, en ce moment, on répète, on conçoit quelque chose d'assez innovant pour ce spectacle. Et non, j'ai envie d'être à la hauteur de tout ça, et puis de... Surtout que c'est une période très, très intense pour moi. J'ai un autre événement heureux que j'attends dans ma vie.
Oh, un bébé?
Oui. Un bébé qui peut arriver au moment où on se parle.
Non, si. Bah alors vivement que l'émission se termine.
C'est ça.
Écoutez, vous prenez votre guitare, vous nous jouez une minute et vous filez à la maison ou à l'hôpital.
C'est ça.
Vous voulez pas prendre votre
si
guitare là?
Qu'est-ce que je peux faire?
Ce que vous voulez, une chanson pour votre bébé. Okay. Je suis sûre qu'il va arriver. Alors ce qu'on n'a pas dit et ce que les auditeurs ne peuvent pas savoir parce qu'il n'y a pas de caméra dans ce studio... C'est que Mathieu a une, comment on appelle ça, une bride dorée, comme le magicien qu'il est.
Oui, j'adore ça.
Souris à la vie quand tu croises le bonheur. Si vite reparti, joue plus au chat, à la souris, cours plus après le bonheur. Quand il est devant toi, qu'il te sourit. Voilà ma seule thérapie. Je prends conscience que tu es pourtant là juste ici.
Merci infiniment. Courez vite retrouver votre compagne et voir ce bébé qui vous attend. Cher Mathieu Chédid, les auditeurs de France Inter auront la chance de pouvoir vous voir dans le studio mardi prochain. Ça sera à 20h en direct. Et croyez-moi, je serai au premier rang pour vous admirer. Merci. Et puis, quant à la tournée, bah, va falloir qu'ils prennent patience, hein. Et puis,
on va s'organiser.
Puis, on va se quitter en écoutant une lettre. Une lettre qui ouvre ce magnifique album. On va l'écouter.
Sur l'envers de l'enveloppe est inscrit, tout en bas écrit en tout petit,
majuscule loyale et discrète.
J'ai fait une drôle de tête, un drôle de soupir. La retournant de l'autre côté, un nouveau message à décrypter.
Mets-lui des ailes, c'est une déesse.
À cet instant fébrile, j'ai ouvert, et c'est là que j'ai découvert. Est-ce l'être infini qui me l'écrit? La lettre infinie que je relis.
L'être infini, infini.
Infiniment et pour la vie. Que je suis
l'être infini. L'être infini, infini.
C'est bien parce que ta bouche a une fausse note que c'est la perfection divine.
L'être infini, infini.
Pourquoi dans l'or c'est toujours quand on s'affrotte, quand ça trébuche que l'on s'incline.
L'être infini, infini.
Voilà soudain à quoi j'ai pensé devant cette lettre immaculée. Est-ce l'être infini qui me l'écrit? La lettre infinie que je relis.
L'être infini, infini.
Infiniment et pour la vie. Oh, l'être infini que je suis. Avec au beau milieu un simple M, une simple lettre, celle de l'amour avec des ailes. Sans un mot, tout est dit, infiniment et pour la vie.
Merci à Benjamin Riquet qui a réalisé cette émission, à Élodie Royen, Sophie Dazard, Mathilde Verfaillie et Antoine Joubert. Merci aussi à Jocelyn Perrotin qui nous a aidé à faire cette émission.
Merci Jocelyn.
Merci à Ludovic Asselot qui était à la technique et qui a fait ce direct improvisé au dernier moment magnifiquement.
Ouais, merci à toi aussi.
Et merci évidemment à Mishka. Mishka, ben, c'est pas fini
pas
pour vous.
Je ne vais pas encore faire quoi que ce soit.
Non mais attendez, attendez.
Comment
je vais poser une petite colle à M, à voilà. Mathieu. Aimez-vous Eric Clapton, Mathieu Chédid?
Énormément.
Eh bien
infiniment.
Voilà. Alors, en allant en voiture à l'hôpital, vous allez écouter Mishka parce que toute la semaine il nous parle d'Eric Clapton. Ah, donc Eric Clapton 3.
Exact. Ben voilà, vous avez tout dit. Alors, mais c'est vraiment là, c'est vraiment vous avez un art de la concision exceptionnel. Félicitations.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.